Y voir clair, avec Nathalie Barrette et Bianca Lucier Dalpé.
Alors, bonjour tout le monde. Alors, bonjour Bianca.
Bonjour Nathalie.
Alors, écoute, je voudrais qu'aujourd'hui qu'on aborde... En fait, c'est notre première balado aujourd'hui et on va parler des déficiences visuelles avec Bianca. Bianca, tu es spécialiste en réadaptation en déficiences visuelles. Moi, je n'ai pas de déficiences visuelles, j'ai pas d'amis, j'ai pas de proches. Alors, Y voir clair, c'est vraiment une émission où on va essayer de démystifier, on va rencontrer des gens. Et en fait, Bianca, parle-nous un peu, tu sais, comment tu vois l'objectif, toi, d'y voir clair? Parce qu'on va former une équipe pendant ces prochains épisodes-là. Alors, comment tu décris, toi, l'objectif de notre émission?
Bien, dans le fond, le but, c'est vraiment de connaître, d'apprendre sur différents aspects de la déficience visuelle, parce qu'on va se rendre compte d'à quel point c'est un monde vaste. Il y a des gens qui voient un peu, il y en a qui ne voient pas du tout, il y en a qui voient de plein de façons différentes, toutes sortes de parcours différents. Fait qu'on veut que ça soit, dans le fond, une multitude de profils de personnes qu'on puisse voir à travers l'émission. Puis, on va avoir un thème, dans le fond, pour chaque séance, chaque épisode de notre balado. Donc, on va explorer différents thèmes. Puis, l'émission, elle s'adresse autant aux personnes qui ont une déficience visuelle que monsieur, madame, tout le monde qui voit très bien. Le but, c'est d'informer, mais toujours avec une touche d'humour. Faut pas trop se prendre au sérieux.
On se prendra pas au sérieux du tout. Donc, tu l'as expliqué, il y a plusieurs déficiences visuelles. Il n'y en a pas seulement qu'une. Fait qu'on va élaborer là-dessus. Toi, Bianca, tu as une déficience visuelle.
Oui.
Quelle est-elle?
Ça s'appelle l'achromatopsie, avec un L apostrophe, achromatopsie, qui pourrait sûrement donner beaucoup de points au Scrabble. C'est pas quelque chose de très, très connu, mais en fait, c'est une pathologie, une maladie qui touche la rétine.
OK.
Puis, pour ma déficience visuelle, comme pour toutes les déficiences visuelles, en fait, c'est avoir une déficience visuelle versus être myope ou être hypermétrope. La différence, dans le fond, c'est que les personnes qui ont une déficience visuelle ne voient pas bien malgré tout ce qu'on aurait pu faire, malgré les lunettes, malgré les opérations, malgré tout traitement médical possible. Donc, quand on a une basse vision ou une déficience visuelle, c'est quand ça ne se corrige pas avec les lunettes, en fait.
OK. Mais alors là, en ce moment, on est à peu près à quatre pieds l'une de l'autre. Dis-moi, comment tu me vois? Qu'est-ce que tu vois de moi?
Oui. Bien, ce que je dis toujours, c'est que moi, j'ai une déficience visuelle de naissance.
Ouais.
Donc, j'ai jamais bien vu. Fait qu'il faut toujours que j'essaie de décrire en m'imaginant comment, quand on voit bien, on voit les autres. Ce que je peux dire, c'est que je vais voir, bon, les formes, je vais voir la morphologie. Est-ce que c'est quelqu'un qui est grand, qui est mince, qui est gros? Ça, je vais bien le voir. D'ailleurs, je vois que tu n'es ni obèse, ni très grande. mais je vais pas voir les expressions faciales, les détails, où est-ce que tu regardes, est-ce que tu souris. Ça, c'est des choses que je vais plus percevoir dans le discours, dans l'intonation.
Ça. Et avant qu'on commence, parce qu'on a un invité qui est un ami à toi, vous vous connaissez depuis longtemps, puis on est bien content de t'avoir, Hugues. Mais avant, je veux juste brièvement, en deux secondes, on a eu une drôle de rencontre, nous deux. En fait, c'est un hasard de la vie qui nous a... En fait, t'es arrivé dans ma vie, puis on a une super belle collaboration. Comment on s'est rencontrés?
Oui, mais c'est vrai que c'est le fun. On était dans un café qui s'appelle tout près d'ici, là, qui est le Biblos, le petit café. Puis moi, je mangeais avec une de mes amies qui également a une déficience visuelle. Puis on parlait de déficience visuelle puis de Canal M parce que mon amie Anne écoute Canal M. Puis toi, Nathalie...
T'es juste à côté de toi puis tu parles de Canal M alors que je travaillais déjà ici. J'ai pas pu m'empêcher d'aller sneaker puis d'aller m'asseoir avec vous. Puis on a jasé puis de fil en aiguille. Bref, on est devenus amies et de bonnes collaboratrices, je crois.
Ouais.
Puis je pense qu'on va avoir une belle balado ensemble. Alors, je tiens à remercier Hugues. Hugues, merci beaucoup. Donc, Hugues Leduc, tu es consultant en statistiques. Alors, parle-moi tout d'abord, Hugues, de ta déficience visuelle.
Ben moi, ma déficience visuelle, contrairement à Bianca, c'est pas depuis la naissance, c'est depuis que j'ai autour de peut-être 21, 22 ans. C'est une atrophie du nerf optique.
OK.
Fait que moi, c'est comme le signal qui passe pas bien entre l'arrière de mon œil puis l'arrière de notre cerveau qui traite la vue.
OK.
Fait que c'est comme s'il était un peu squeezé, mettons. Potentiellement, quand c'est arrivé, on pensait peut-être que c'était une tumeur au cerveau qui peut-être mettait une pression, des trucs comme ça. Heureusement, c'était pas ça. Fait que la cause est inconnu, mais le diagnostic est là, que j'ai mon champ visuel central qui est affecté.
OK, OK. Alors aujourd'hui, avec toi, Hugues et Bianca, on va parler du travail. Puis c'est drôle, anecdote comme ça, quand on a commencé à travailler ensemble, Bianca et moi, tu sais, je lui envoyais des courriels et tout ça, puis un moment donné, on s'est rencontrés, puis j'avais fait des photocopies avec des petits caractères comme ça, puis là, Bianca m'a rappelé qu'elle les voyait pas, les photocopies et tout ça. Fait que je voudrais te poser des questions par rapport à ton travail, ton orientation. En fait, toi, donc, en fait, ta déficience visuelle, tu l'as appris dans la vingtaine, mais tu dirigeais pour être ingénieur, c'est ça?
Exactement. J'étudiais en génie électrique.
OK.
J'avais fait la moitié du parcours, là. J'avais fini ma deuxième année. Puis c'est pendant l'été que j'ai remarqué que ma vue baissait un peu. Puis éventuellement, ben, là, la vue a baissé graduellement, peut-être pendant un an ou deux. Ça m'a mené à abandonner ces études-là. Je me rappelle, j'étais dans le laboratoire, puis là, je voyais pas mes fils, puis mes panneaux, puis mes puces, je m'en allais dire les chips. Mes puces. J'étais très dépendant de mes partenaires de laboratoire. Puis ça devenait difficile. Là. J'étais pas adapté à mes nouvelles conditions à faire des études aussi complexes. C'était difficile. Fait que j'avais abandonné mes études en génie. Puis là, ben, je me suis dit, il faudrait que je fasse autre chose.
Mm-hmm. Mais tu t'es dirigé en maths quand même, ce qui n'est pas évident non plus. Là, c'est pas plus simple.
Ben, pour moi, ce qui était plus simple, c'est que c'était plus facile pour moi les mathématiques que les sciences comme la physique ou justement le génie électrique. Okay. Fait que c'est comme si je m'en allais me suis réfugié un peu dans une zone de confort. J'ai toujours une facilité avec les mathématiques.
Mm-hmm.
Puis en même temps aussi, ben, il y a certains de mes cours qui m'étaient crédités dans mon bac en maths. Fait que c'est un peu ce qui avait déterminé. Puis je m'étais dit, je pourrais me rediriger à enseigner les mathématiques.
Okay.
Enseigner des maths, ben, t'as besoin d'une craie, un tableau, t'as pas nécessairement besoin de tes yeux. C'est pas si simple que ça.
Eh là là, OK. Donc, t'es devenu enseignant. Et là, moi, c'est là que je veux aborder le sujet de la surcompensation. Bianca, on en a parlé parce que moi, quand j'ai à travailler sur un projet, j'ai probablement beaucoup moins d'efforts à mettre que vous.
Bien, c'est sûr que moi, ce que peut-être je pourrais dire, c'est que quand on a une déficience visuelle, souvent, ce qu'on se demande, c'est comment on va faire les choses. Parce que la façon de faire typique, bien, elle ne fonctionnera pas pour nous. Fait que, par exemple, moi, en lisant mes notes à la radio, bien, je ne peux pas lire toutes des phrases super longues ou ça va être écrit avec beaucoup de détails. Fait que je vais me prendre des mots qui sont des rappels d'idées. Tu sais, fait que ça, c'est une façon de compenser, mais il faut prendre le temps d'adapter nos choses. J'imagine que toi, Hugues, c'était le cas aussi. Tu as dû adapter ta façon d'enseigner les mathématiques, sûrement pas de la même façon que tes collègues?
Oui, je le vois. En tout cas, il y a une chose que j'ai en tête, c'est que, par exemple, même j'ai enseigné un peu au cégep, j'ai été chargé de cours dans quelques universités, puis il y a une charge de cours où, c'est souvent le cas des charges de cours, c'est que tu es là pour donner le cours. C'est pas toi qui développe le matériel pédagogique, c'est pas toi qui fais les notes de cours. Fait que, tu sais, j'avais des PowerPoint que je pouvais utiliser.
Oui.
Mais moi, il était écrit trop petit, les PowerPoint, autant sur l'ordinateur de l'enseignant que même si je regardais sur l'écran, c'était pas assez gros. Fait que je retravaillais les notes de cours pour les mettre en gros caractères, les PowerPoint que j'utilisais en classe. Ben, les étudiants, eux, c'était peut-être un peu étrange parce que c'était comme écrit trop gros, mais au moins moi, j'arrivais à lire. Mais toutes ces heures-là, le chargé de cours qui enseigne le même cours que moi puis qui voit bien, le faisait pas.
Exactement. Puis toi, tu te promenais, Bianca, tu l'as raconté, tu te promenais avec une télévisionneuse.
Qu'est-ce qu'une télévisionneuse, Hugues?
Ben oui, c'est ma télévisionneuse portable que j'appelais affectueusement mes yeux électroniques.
Ouais.
Fait que télévisionneuse portable, ben c'est un écran. Dans le fond, il était pas mal carré, l'écran, là, peut-être un écran de 15-18 pouces. Puis au-dessus de cet écran-là, il y a une caméra. Puis la caméra pouvait être pointée sur la table devant l'écran. Ça filmait le document qui était sur la table et ça le représentait à l'écran. Puis là, je pouvais grossir. Fait que je l'utilisais en classe. Les étudiants, s'ils venaient me poser des questions, ben, je me promenais pas avec ça d'un bureau à l'autre. Ils se levaient, ils venaient à mon bureau pendant qu'on faisait des séances d'exercice. Puis là, ils mettaient leurs feuilles sur la table. Puis là, moi, je disais, OK. Là, je prenais un peu le contrôle, je bougeais la feuille pour que là, ça soit la bonne partie de la feuille qui soit grossie sur mon écran de télévisionneuse. Puis là, les étudiants me posaient des questions, puis c'est drôle parce qu'il fallait qu'ils s'habituent. S'habituer à l'endroit où je vais mettre mon doigt sur la feuille.
Ouais.
Bien, c'est bizarre quand je le regarde sur l'écran et non pas directement sur la feuille. Fait que je voyais les étudiants un peu apprendre ou vivre le processus que la personne malvoyante doit d'apprendre à utiliser sa télévisionneuse, mais là, de la part de quelqu'un qui est juste qui vient juste me poser une question, finalement. Mais au moins, ça me permettait de voir ce qu'il avait écrit sur leur feuille.
Bianca, est-ce que c'est habituel de travailler avec une télévisionneuse dans le domaine, ben, peu importe le domaine? Est-ce que
ben oui, c'est fréquent. Les personnes qui vont utiliser les télévisionneuses, il y en a quand même beaucoup dans les personnes qui ont une déficience visuelle parce que ce que ça fait, c'est que ça grossit, évidemment, mais ça va aussi améliorer le contraste. Fait que c'est une façon de permettre l'accès aux documents papier. Puis il y en a toutes sortes. Il y en a des portatives, il y en a des de tables, si on peut dire, vraiment plus grosses. Je me rappelle que toi, Hugues, t'en avais une avec un grand bras, là, la long arm. Comment elle s'appelle déjà?
Hey, j'aurais dû me pratiquer, c'est la, la Enhanced Vision Long Arm Portable CCTV.
Bravo! Oh,
ouais, bravo!
Puis ça, c'était cool parce que j'utilisais aussi, celle-là, je l'utilisais pour la correction. C'est un peu le même concept, sauf que ça, c'était un bras articulé, il y avait une caméra au bout. Mm-hmm. Puis elle aussi, je pointais cette caméra-là sur ma table, mais elle pouvait être connectée à mon écran d'ordinateur qui, lui, était un écran 27 pouces. Fait que pour la correction, je passais les feuilles sur ma table au bon endroit pour que ça soit filmé. Ben, que ça soit pris par la caméra et projeté sur l'écran, mais quand même, surtout comme enseignant de cégep, on est souvent en train d'évaluer nos élèves. T'es sorti secondaire, c'est pas « Ah, ils sont full autonomes, un intra, un final, let's go ». Non, non, on est souvent en train de les évaluer. Fait que c'est un gros pourcentage de la tâche qui est la correction. Ça me demandait du temps et de l'énergie.
Ah, ça doit être incroyable. Mais est-ce que tu étais le seul enseignant à avoir une déficience visuelle, selon toi, là, dans ton entourage? Ou,
J'en ai pas. Ben, j'ai pas été au courant d'autres. J'ai enseigné dans deux cégeps et trois universités.
OK.
Je sais qu'à un moment donné, quelques années après que j'ai arrêté d'enseigner puis que j'occupais le poste que j'occupe toujours au département de psychologie de l'UQAM, c'est Bianca qui m'avait parlé de quelqu'un. Je pense qu'il y a un prof de Concordia à un moment donné, un chargé de cours à Concordia, qui était venu à mon bureau à l'UQAM pour qu'on discute de l'enseignement avec une basse vision. J'avais parlé là, de télévisionneuse portable, puis aussi là, les logiciels. Les nouvelles versions des logiciels d'adaptation permettaient que, moi, sur l'ordinateur du professeur, là, les trucs étaient grossis, fait que j'arrivais à les voir, mais les étudiants, eux, n'y voyaient que du feu sur ce qui était projeté à l'écran. Donc, eux autres, ils voyaient la vie pas grossie, finalement.
Mais tu travailles, mais tu peux pas conduire de voiture. On en parlait tantôt, justement, puis ça te choque un peu de pas pouvoir conduire, j'imagine. Fait que ben, tu vas travailler en autobus, tu utilises les transports en commun, c'est ça?
Oui, ben, je prends le transport en commun. De toute façon, comme plusieurs Montréalais, de toute façon, j'habite à Montréal, mais il faut dire que quand j'ai eu ma baisse de vision, j'habitais à Montérégie-Ouest. J'avais une voiture depuis pas longtemps parce que je n'étais pas si vieux que ça. Fait que j'ai perdu quelque chose que j'avais gagné il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire la possibilité de conduire une voiture. Puis,
Fait que tu te promenais en autobus avec ta télévisionneuse? Parce que tu travaillais à Terrebonne, tu as fait l'UQAM, tu t'es promené pas mal, je pense.
Oui, bien, dès la première session, j'enseignais à trois places différentes. Hey! Fait que j'avais le Collège de Rosemont, l'École de technologie supérieure, puis l'UQAM. Fait que là, je m'étais fait attribuer une télévisionneuse portable, puis en plus, j'avais acheté le même modèle, mais par mes propres moyens, mais j'en avais quand même juste deux. Fait que oui, je pense celle de l'UQAM, je l'ai laissée à l'UQAM. Puis je déplaçais celle du Collège de Rosemont à l'École de technologie supérieure. Puis en plus, j'avais une heure et demie entre mes cours au Collège de Rosemont puis à l'ETS. Fait que je prenais un taxi. Puis je pouvais même pas le faire transport en commun. La télévisionneuse portable dans le taxi, mangeait dans le... Mais c'est la réalité souvent des enseignants au niveau collégial et universitaire. Tu veux faire ta place, à un moment donné, on te donne un petit cours par-ci, un petit cours par-là. Fait que tu accumules les charges de cours qui ajoutaient aussi. Des fois, j'étais en surtâche. Puis déjà que moi, juste 100% de tâche, avec les efforts additionnels, là, tu parlais de surcompensation, que ça demande rapidement. Je me suis dit, OK, c'est sûrement pas pour moi cette voie-là. Je vais essayer de...
OK, on va revenir à ce que tu fais maintenant dans la vie. Mais Bianca, question pour toi. C'est quoi les plus grandes difficultés quand tu arrives dans un milieu de travail, quand tu arrives, quand tu as une déficience visuelle, puis que tu arrives, peu importe le milieu, parce que tu es enseignant, mais là, tu es rendu maintenant consultant en statistiques. C'est quoi les plus grandes difficultés qu'une personne qui a une déficience visuelle a ou doit surmonter quand elle arrive dans le marché du travail?
Bien, je pense que ça dépend beaucoup de la déficience visuelle. Tu sais, quelqu'un qui est en cécité, par exemple, ça va être est-ce que l'accès est possible à l'information. Est-ce que la personne a accès au site ou à Internet, tout ce qui est utilisé comme logiciel, ça pourrait être ça. Quelqu'un qui a une déficience visuelle plus légère, qui est invisible, qui ne paraît pas nécessairement, elle peut avoir des difficultés quand même, mais ce n'est pas apparent. Fait qu'elle, c'est comment je l'explique, quand je le dis, à qui je le dis, est-ce qu'on va avoir des craintes? Fait que c'est peut-être de rassurer. Ça peut être, les difficultés pourraient être autant nombreuses que les personnes sont, mais je pense que ça va être dans tous les cas le fait de compenser de ne pas avoir accès à certaines informations. Fait que pas bien voir le PowerPoint, pas bien voir les expressions faciales. Par exemple, je pense, Hugues, toi, quand les élèves avaient des questions, je me dis ça devait être une gestion de voir est-ce qu'ils comprennent ce que j'explique ou est-ce qu'ils ont l'air d'avoir absolument rien compris.
Tu voyais pas leur réaction, tu voyais pas leur visage.
J'ai étudié assez longtemps pour savoir que même si le prof dit « si vous comprenez pas, là, posez des questions », que dans un cours de maths, souvent, personne comprend. Des fois, mettons, où la majorité comprennent pas, mais ils disent pas. À moins, des fois, il y a un courageux. Fait que moi, mes étudiants, je leur disais « je ne verrai pas dans votre face que vous comprenez pas. S'il vous plaît, dites-le, mais je suis convaincu que malheureusement, j'aurais pu réexpliquer des choses si j'avais eu l'information de leur expression faciale, parce que malheureusement, je pense pas qu'ils levaient la main plus avec moi. Fait que oui, je manquais cette information-là.
OK. Puis tu sais, tu parles, c'est drôle parce que tu vois pas leur... tu voyais pas comment eux, ils réagissaient, mais si tu l'annonces pas, parce que je vous regarde les deux, Bianca et Hugues, les deux, vous me regardez dans les yeux là, quand on se parle. Si vous le dites pas, puis que t'as pas de télévisionneuse, c'est pas évident. Là. Bianca, quand on mange ensemble, on travaille ensemble, on va au resto, personne ne peut savoir que t'as une déficience visuelle. Fait que, est-ce que vous l'annoncez automatiquement en arrivant au travail? Toi, comme je te dis, Hugues, c'est peut-être plus évident parce que t'arrives avec ta télévisionneuse, mais dans un domaine, dans le milieu du travail.
Je peux y aller, ce que je dirais, moi, je l'ai toujours dit.
Okay.
Parce que... Pour ma vision, il y a beaucoup plus d'avantages à le dire. Déjà, pour moi, de savoir, parce que je sais jamais quand je vais avoir une difficulté. Tout peut bien aller, je pourrais ne pas le dire, puis là, il se passe quelque chose, tout à coup, on se met à regarder le téléphone de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui entre, je sais pas qui c'est, ou il pourrait arriver à n'importe quel moment, ce que nous, on appelle une situation d'handicap, ou un bug qui fait que, là, tout à coup, je suis comme mal pris. Fait que si je le dis pas, ça va être perçu par autre chose que la déficience visuelle. Bianca est snob, ou ça pourrait être pas intéressé. Fait que pour moi, le fait de le dire, c'est qu'on se comprend. T'sais, si j'ai un problème, les gens vont être sympathiques à ma cause au lieu de pas le comprendre. Fait que selon moi, je dois le dire. Peut-être pas quand je vais acheter quelque chose au dépanneur, mais quand je travaille avec des gens, quand je sais que je vais avoir à réinteragir, ou quand j'ai une difficulté quelconque, moi, je choisis personnellement de toujours le mentionner.
Ça peut sembler une question étrange, mais tu connais quelqu'un qui l'a pas dit. Est entrée dans le milieu, cette personne-là a commencé à travailler, mais elle n'avait pas dit qu'elle avait une déficience visuelle. Tu m'as parlé d'une fille qui ne l'avait pas dit, mais ça fait une couple d'années, puis elle avait de la difficulté, il fallait qu'elle boucle des billets d'avion, il fallait qu'elle boucle...
Oui. Je me demandais. Là.
De quoi elle parle?
Et un gars est tellement proche que je le voyais dans son visage. c'est dire à quel point la panique était grande, c'est comme je ne me rappelle pas de ça.
De quoi? J'ai-tu dit ça, moi? Fait que tu connais quelqu'un qui l'a pas dit.
Oui, puis c'est fréquent. Puis je pense que tout le monde, c'est un processus d'apprentissage parce qu'un handicap qui est invisible ou visible, quand il est invisible, on peut passer comme n'importe qui, ce qui peut avoir certains avantages dans certains contextes. Quand on le dit, ben là, comment je peux dire, on passe du côté de la personne à un handicap, tu sais. Fait que c'est comme un peu mettre carte sur table ou pas. Puis je pense que ça prend... un certain niveau de confiance pour arriver à dire, ben, tu sais, je travaille, j'ai une déficience visuelle, j'ai telle difficulté, mais j'ai aussi telle force, puis moi, je pense que je vaux autant qu'une autre personne.
Mm-hmm.
Mais d'avoir la confiance en soi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans leur vie plus jeune, ne savaient pas trop comment le dire, quand le dire, dans quel contexte, quand le dire, quand pas le dire. Je pense que c'est beaucoup de réflexion qui va se faire au long de la vie, tu sais, de devenir de plus en plus habile socialement à l'expliquer.
OK, je comprends. Maintenant, Hugues, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as changé de carrière, parce que c'était vraiment exigeant, la correction et tout ça, j'imagine. Là, qu'est-ce que tu fais dans la vie présentement?
Présentement, je suis consultant en statistique au département de psychologie de l'UQAM.
OK. Puis c'est quoi les difficultés que tu éprouves au quotidien dans ce métier-là, ce nouveau métier-là?
Ben, en fait, en lien avec mes tâches, ma tâche principale, qui couvre un très gros pourcentage de ce que je fais, c'est que les étudiants au doctorat... ou les étudiants à la thèse de spécialisation, dernière année de bac, ou même les professeurs bien, viennent me consulter mm-hmm. quand ils ont des questions au niveau de l'aspect statistique de leur projet de recherche.
OK.
Fait que là, c'est moins commun qu'ils arrivent avec des résultats sur papier. C'est-à-dire que la pandémie a encore plus fait en sorte qu'on met moins de choses sur papier. Je sais pas, on est habitué de faire des zooms, mais souvent, ben, je dois consulter leurs documents sur ordinateur.
Mm-hmm.
Ben, si moi, je les consulte sur mon ordinateur, ben, j'utilise un logiciel qui grossit les caractères.
Okay.
Quand ça grossit les caractères, ben là, l'étudiant, lui, verrait juste 4% de l'écran comme moi, je le vois. Puis quand mm-hmm. c'est pas toi qui contrôle l'écran bouge, le focus, c'est jamais sur la même partie de l'écran. Ça peut donner mal au cœur aussi. Mais heureusement, j'ai deux écrans.
OK.
Sur mon écran, moi, c'est adapté en très gros. Et sur le deuxième écran, que la personne qui vient me consulter, ben, elle a les yeux sur cet écran-là. Ben, un peu comme quand j'enseignais, puis que c'était ouais. grossi sur l'écran de l'enseignant et pas sur l'écran où on projetait les notes de cours. Ben, c'est un peu la même chose aussi. Fait que ça, c'est quand même pas si pire au niveau du setup informatique. Ça, okay. ça va quand même assez bien.
Puis comment les étudiants, moi, je suis curieuse de savoir, comment les étudiants, ils réagissent? Est-ce qu'ils sont curieux quand ils voient que tu grossis beaucoup? Est-ce qu'ils posent des questions? Comment ils réagissent avec ça?
Ben, c'est quand même des étudiants en psychologie. Fait qu'ils ont un intérêt...
Avec tact, on peut supposer. Avec tact, on peut supposer.
Oui, oui, aussi, mais quand même, l'endroit où j'en ai, c'est qu'ils ont une certaine curiosité, des fois, sur... Ben, ils ont un intérêt pour l'être humain, pour mm-hmm. différentes situations. Fait que souvent, il y en a qui me posent des questions, justement, sur même... t'as-tu toujours pas bien vu? Comment c'est arrivé? Comment tu fais telle et telle affaire? Mais... ouais, des fois, c'est plus que... C'est un peu drôle quand je leur dis que j'ai... Peut-être que je vois pas bien. Je dis, bon, je suis un logiciel qui grossit. Moi aussi, je travaille en... Bianca, tu auras peut-être la bonne expression. Tu sais, quand on travaille en noir sur blanc. Là.
En couleur inversée.
Couleur inversée.
Simplement, oui.
Dis tout simplement.
Fait que je travaille en couleur inversée. Puis ça se retrouve sur les deux écrans. Donc, mon écran, moi, il est grossi et en couleur inversée. Puis le deuxième écran est pas grossi, mais aussi en couleur inversée. Puis souvent, je leur demande, est-ce que tu préfères comme ça, couleur inversée, mm-hmm. ou là, je suis dans la course clavier, ou comme ça, pas couleur inversée. Fait que j'ai toujours l'impression, c'est comme s'il était chez l'optométriste qui te demande, c'est-tu mieux ça ou ça? Puis à chaque fois, t'es comme, surtout quand t'as un handicap visuel, c'est pareil,
je
là.
Sais pas.
0.25 dioptrie, ça change rien. Mais sauf que quand ils préfèrent les contrastes normaux, je les avertis toujours de dire, je suis tellement habitué de travailler en couleur inversée, mais c'est plus un confort pour moi que des fois, je me rends pas compte. Puis je me remets en couleur inversée sans m'en rendre compte. Puis là, des fois, j'ai des étudiants que je les vois réagir. Je suis comme, ah, excuse-moi, je me suis remis en couleur inversée.
Tu travailles sur de la rigidité en même temps.
Oui, j'essaie parfois de faire preuve de flexibilité. Pas facile.
Et puis par rapport au travail, est-ce que tu as eu des deuils à faire? Est-ce que tu as au quotidien des deuils à faire ou ton deuil a été fait quand tu avais 20 ans? Puis aujourd'hui, tu fais ce que tu as envie au travail. Tu arrives T'arrives à faire tout ce que tu veux? Ou t'auras toujours, il y aura toujours des difficultés au quotidien?
Bonne question. Je pense que j'ai pas encore fait mon deuil de l'enseignement parce qu'il faut dire que j'ai essayé deux fois
ouais.
d'enseigner à la fin de mon bac en 2008. Puis là, l'état de la technologie, même les télévisionneuses, j'avais 6 étudiants. C'était long, la correction. C'est là que je me suis dit, non, c'est pas pour moi. J'étais allé faire une maîtrise, j'ai mm-hmm. fait autre chose. Puis après ça, j'ai fait, peut-être que les technologies sont meilleures. Je vais réessayer. Je pense pas que je vais réessayer une troisième fois, mais quand même, ça ça me dérange un peu que ça ait pas fonctionné. Ouais.
OK. Puis, écoute, si tu pouvais donner un conseil à ton toi du passé, au moment où tu as découvert ta déficience visuelle en lien avec la carrière, qu'est-ce que tu lui dirais à ton toi quand tu avais 20 ans et que tu as appris ta déficience, par rapport au travail, par rapport à tout ce que tu as traversé depuis ces années-là, parce que je veux pas trahir ton âge, mais ça fait une couple d'années que tu travailles.
J'ai pas mal atteint, il y a pas longtemps, mais le point où j'ai vécu la moitié de ma vie en voyant bien, puis l'autre moitié en voyant pas bien.
OK.
C'est sûr que les premières années de la moitié où je voyais bien, je me rappelle très peu, là, parce que j'étais bébé, mais quand même, tu sais, je l'ai remarqué à un moment donné, mais faudrait que même si tu sortais le gars des statistiques, tu peux pas sortir les statistiques du gars. Là, fait
que, mais qu'est-ce que tu dirais, exemple, à toi-même, il y a 20 ans? Parce qu'il y a plein de possibilités au côté travail, là.
Ouais, mais je pense que ce que je me dirais, c'est... Puis ça, j'avais eu cette réflexion-là il y a pas longtemps.
Ouais.
Va pas étudier en mathématiques puis en statistiques.
OK.
Il y a beaucoup de défis. C'est technique. tu sais, n'importe quel emploi, il y a l'utilisation de logiciels avec la programmation. Ouais. Tu peux pas utiliser une synthèse vocale là-dessus. C'est pas des phrases, c'est des mots, c'est du code. Mm-hmm. Déjà qu'il y a une complexité à voir juste une partie de tout l'environnement. Ça demande vraiment beaucoup de, au niveau cognitif de travailler. Étant donné mon niveau de vision, mm-hmm. fait que tu sais, présentement, c'est quand même pas bien. J'ai trouvé un emploi où je suis comme un peu en relation d'aide. Fait que tu sais, ouais, il y a une partie de mon travail qui est je travaille avec des gens.
Ouais.
Ça fit avec ma formation, mais ça a pris du temps avant que je trouve cet emploi-là. Il y a quand même des enjeux aussi. J'irais davantage vers des emplois qui sont moins. Dans des domaines moins exigeants visuellement que les mathématiques. C'est un peu ça que je dirais à mon moi d'avant, mais. J'en veux pas à lui d'avoir choisi ça, il ne savait pas.
Non, là, t'es heureux, puis tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, quand t'es jeune, puis que t'apprends, j'imagine que tu dois le dire, mais ma vie est finie, ou je trouverai pas de travail intéressant. Ou... Est-ce qu'on a cette réflexion-là? Toi, c'est de naissance, mais
oui.
Tu travailles avec des gens qui ont à vivre avec un diagnostic.
Oui, puis ça dépend toujours de ce que les gens font. Quelqu'un, par exemple, qui travaille comme agent administratif au centre-ville...
Mm-hmm.
C'est peut-être possible de recontinuer à faire la même chose. Quelqu'un qui était pilote puis qui demeure dans le fond de la campagne, il va falloir qu'il change sa vie, c'est sûr. Fait que le chemin peut être plus ou moins long selon qu'est-ce qu'on faisait avant.
OK, OK, c'est bon. Et puis, ben écoute, on va continuer à parler de travail parce qu'après la pause, on va recevoir Ariane Gingras, qui est directrice générale d'Horizon Travail. Puis j'ai plein de questions, moi, par rapport au travail au quotidien, par rapport aux embûches. On en a parlé un peu avec toi, mais... puis tu sais, quand t'es jeune, bon, toi, c'était dans la vingtaine, mais travail d'été, travail... parce que quand tu as eu ton diagnostic, tu as commencé à travailler tout de suite. Tu étais étudiant, hein? C'est ça que tu...
Oui, puis heureusement, mon emploi d'été, j'étais... Je n'ai pas de publicité. J'étais guide animateur dans un musée ferroviaire dans la région de Montréal.
OK.
Ben ça, je faisais des visites guidées d'un musée avec des gros trains. Fait que j'avais très peu d'exigences visuelles dans cet emploi-là. Fait que ça, c'était quand même assez le fun.
OK, c'est bon. Puis, et Bianca, on va parler tantôt de ton métier parce que j'aimerais qu'on comprenne qu'est-ce que ça fait dans la vie, une spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Alors, donc, on va aller une petite pause. Puis, Hugues, tu restes avec nous.
Bien sûr.
Et puis, on va accueillir Ariane dans quelques secondes.
À bientôt.
À tantôt.
Vous écoutez Y voir clair avec Nathalie Barrette et Bianca Lucier d'Alpé.
Alors, on est content. On reçoit aujourd'hui Ariane Gingras, qui est la directrice générale d'Horizon Travail, qui est un organisme québécois qui aide les personnes en situation de handicap. Je sais, on ne sait pas. Merci beaucoup d'être ici. Bonjour.
Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Ça me fait très plaisir.
Alors, c'est quoi le rôle exact de Horizon Travail?
Horizon Travail est un organisme sans but lucratif qui est subventionné par le gouvernement du Québec, le ministère de l'Emploi, mm-hmm. pour accompagner les personnes qui ont un handicap visuel ou une problématique de santé mentale au niveau de la recherche d'emploi, de l'intégration et du maintien en emploi.
OK. Et en fait, est-ce que toi-même, Ariane, parce qu'on s'est parlé, est-ce que tu as une déficience visuelle, toi, ou pas du tout? Non.
Non.
OK.
Non.
Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine-là?
En fait, moi, je suis issue des ressources humaines et du domaine de l'employabilité.
Mm-hmm.
Donc, employabilité avec une autre clientèle qui était les nouveaux arrivants. Mais donc, pour moi, c'était tout naturel d'aller en employabilité. Puis, j'avais envie de découvrir aussi d'autres diversités, si on peut dire. Continuer avec à pouvoir aider des personnes qui ont des enjeux, d'où l'horizon de travail.
Okay. Est-ce que tu fais, j'étais curieuse de savoir, est-ce que tu fais certains rapprochements dans les défis entre les personnes qui ont, soit qui viennent de l'immigration ou les personnes qui ont une déficience visuelle? Est-ce qu'il y a des points communs?
C'est passablement différent. Je dirais que... Ben, il y a des obstacles, en fait, pour
dans
tout le monde.
Dans les deux cas, hein?
Oui, dans les deux cas, il y a des obstacles. Pas les mêmes, mais il y a des obstacles. Il y a des peurs ou des préjugés de la part des employeurs, entre autres, aussi. Mais je dirais que je pense que c'est encore plus accentué, malheureusement, pour les personnes en situation de handicap. On a bien avancé pour les nouveaux arrivants, même s'il reste encore du chemin à faire, mais il y a encore plus de chemin à faire, malheureusement, pour les personnes en situation de handicap.
Ariane, dis-moi, est-ce qu'il y a des métiers qui sont ou des industries qui sont plus accessibles pour les personnes qui ont une déficience visuelle?
C'est difficile à dire parce que chaque personne qui a une déficience visuelle a des limitations différentes. Même avec le même diagnostic, exact, le même non-diagnostic, rétinite pigmentaire ou peu importe, les gens vont avoir une vision qui va être complètement différente.
Okay.
Donc, c'est vraiment du cas par cas.
Okay.
Ceci dit, je dirais qu'il y a quand même des métiers où on se doute que c'est très, très, très compliqué.
Oui.
J'ai entendu dire tantôt un avion. on s'entend qu'il y a quand même des limitations, mais
il y a pas de pilote.
Ça reste étonnant quand même qu'on voit des gens dans tous les secteurs, dans tous les domaines.
C'est quoi les principaux défis que vous voyez chez les gens qui ont une déficience visuelle? C'est quoi les principaux défis qu'ils vont rencontrer au travail?
Souvent, il y a des défis technologiques. Dans certains secteurs, je pense par exemple, entre autres, le secteur bancaire, ils ont des logiciels maison et parfois, soit la technologie informatique qu'ils ont ne supporte pas les ajouts pour des ajouts pour grossir ou pour la synthèse vocale. Donc, parfois, c'est pas possible d'intégrer. Ou parfois, même avec notre... Maintenant, on est rendu avec toutes les feuilles de sécurité puis les peurs pour les données, puis... Il y en a simplement, ça pourrait le supporter, mais ils veulent pas mettre un logiciel externe sur leur logiciel. Fait que ça, c'est dommage, cette limite-là technologique. C'est sûr que ça, c'est une barrière. Mais heureusement, on travaille avec l'INLB pour essayer d'adapter le mieux possible les postes.
Il faut mentionner, Bianca, j'ai oublié de le dire tantôt, tu travailles pour l'Institut...
Nazareth et Louis Braille, qui est un centre de réadaptation qui fait partie du réseau de la santé, qui est spécialisé auprès de la clientèle avec une déficience visuelle.
On travaille main dans la main avec l'INLB.
Génial. Et puis, c'est quoi les préjugés les plus fréquents auxquels les personnes malvoyantes font face dans le milieu du travail?
Bien, déjà, puis moi, c'est quelque chose que j'ai aussi... découvert, mais en tout cas, j'ai pris plus conscience, c'est que souvent, on associe problème visuel et cécité complète. On pense aux chiens, on pense à la canne blanche, mais il y a beaucoup de gens où on ne peut pas s'en douter. C'est pas visible.
C'est ça.
Et donc, ça, c'est sûr que les gens vont beaucoup accrocher à... Tu sais, une personne, c'est ça, elle va avoir un chien, elle va avoir une... Mais les gens n'ont peut-être pas la sensibilité ou beaucoup de méconnaissance, puis c'est normal, moi, la première, quand je suis rentrée dans le secteur, sur c'est quoi les maladies visuelles, qu'est-ce que ça peut occasionner, ou la personne, OK, elle va peut-être voir dans un silo, elle va voir, mais ça, on ne connaît pas toute cette complexité-là des problématiques-là de limitations visuelles. Je pense que c'est difficile de se mettre à la place ou de comprendre les besoins des personnes ou les limitations, qu'est-ce que ça va avoir comme... Quels sont les besoins concrets d'une personne en milieu de travail?
C'est... Est-ce que toi, Hugues, tu as été victime de préjugés ou est-ce que des gens, des fois, ou est-ce que des fois, les gens ont pensé peut-être que tu pouvais être moins efficace parce que tu avais une déficience visuelle? Ou est-ce qu'on le sent, ça, des fois? Est-ce que ça peut se sentir? Être dénigré un peu par certains? Non, hein?
Moi, non, je pense pas que je l'ai vécu. Ou s'il y en a eu, j'en ai pas été conscient.
OK, c'est bon. Puis pour les jeunes, Ariane, est-ce que c'est plus difficile d'obtenir un métier quand on a une déficience visuelle? Je parle vraiment les jeunes, les adolescents.
Bonne question. Nous, on reçoit les gens à partir de 16 ans. Donc, on voit beaucoup moins les gens qui sortent de l'école. Tout dépend du métier, en fait, je pense. Je me répète, là, mais c'est vraiment variable d'un métier à l'autre. Puis, tu parlais des préjugés aussi. Effectivement, les employeurs pensent parfois que ça va être compliqué.
C'est ça.
Que la personne va prendre plus de temps pour faire les choses, que ça va justement avoir un impact sur leur productivité ou un impact financier parce que par rapport à une autre personne, ben ça va être plus compliqué, plus long.
Des fois aussi, ça me donne l'impression que plus on est spécialisé, plus on a comme quelque chose qu'on connaît bien, une niche, moins on est vulnérable. Tandis que quand on est jeune, par exemple, moi, je pense à moi, tu sais, si je voulais travailler dans un dépanneur, ça serait difficile. Là, j'ai la chance d'avoir des études dans mon domaine où j'ai pas beaucoup de préjugés parce que c'est un milieu, évidemment, en déficience visuelle qui est accessible. Mais je pense que les préjugés, ils vont peut-être, je sais pas si, en tout cas, l'impression que ça me donne, c'est que ce qui est difficile, c'est les premiers emplois. Quand t'es jeune, que t'arrives, que t'as pas d'expérience, que tu sais pas bien comment expliquer ta déficience visuelle, comment le mentionner en entrevue, puis que tu n'as pas une spécialité. Donc, tu vas faire la même chose que les autres en espérant être autant efficace. Tandis que quand tu as un savoir particulier ou une expertise quelconque, bien là, tu peux avoir quelque chose qui peut aider, qui peut te distinguer, là, peut-être, tu sais.
Puis dans quel domaine, là, c'est une question étrange, mais dans quel domaine, en fait, parce que, bon, en mathématiques, enseignant, tout ça, mais c'est quoi le métier le plus bizarre, là, que quelqu'un qui a une déficience visuel occupe. Avez-vous entendu quelqu'un dire... Parce que moi, personnellement, j'ai été surprise. J'ai parlé à Bianca qui me disait qu'elle connaît des personnes qui ont des déficiences visuelles qui conduisent un véhicule.
Oui.
Fait que je me dis, est-ce qu'il y a des métiers particuliers que des gens, tu te dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que cette personne-là...
Ben moi, ce qui est drôle, c'est que j'en connais deux.
Ouais.
Qui font de l'éclairage de scène.
Ah, moi, j'en connais une. On doit connaître la même personne.
Oui, c'est ça. Il y a la personne que j'ai en commun avec Bianca, puis il y a un de mes coéquipiers au hockey sonore. Puis c'est surprenant parce qu'il dit, ben là, y a-tu quelque chose de plus visuel que de l'éclairage?
Ouais.
Nous, on a une personne qu'on a accompagnée qui a démarré son entreprise, mais qui est pâtissière. Ouais. On s'entend que la pâtisserie, c'est quand même dans le détail, dans les proportions, dans le visuel aussi de ce qu'on fait. Il faut que ça soit attrayant. Donc ça m'a un peu...
Excuse-moi, Nathalie, je voulais dire, il y a un couple de fermiers non-voyants aussi, la canne blanche, qui font des œufs de canne, justement. Ouais. Ça, c'est pas fréquent, là, dans le domaine de l'agriculture.
Deux personnes qui partent en affaires parce que, il y a quelqu'un que j'ai parlé cet été qui disait, moi, je me suis partie en affaires parce que je voulais avoir un métier stimulant. Puis, il y a des gens qui, justement, des fermiers. Et puis, qu'est-ce que vous dites aux jeunes quand. Parce que tantôt, j'ai posé la question à Hugues. Je lui disais, est-ce qu'il y a un moment de découragement, est-ce qu'il y a un deuil à un moment donné à faire en lien avec le travail? Les jeunes, quand ils arrivent chez vous, ils arrivent comment? Dans quelles conditions ils sont? Quand ils ont 16 ans, là, quand vous les accueillez?
C'est sûr qu'on en reçoit moins qui ont 16 ans, mais que ça soit 16 ans ou que ça soit 64 ans, il y a un deuil. Puis certains ont déjà fait leur deuil parce que c'est arrivé petit ou c'est depuis la naissance. D'autres viennent tout juste d'avoir soit une perte de vue ou une diminution de vue qui soit suffisante pour être obligé de se réorienter. C'est sûr qu'il y a un deuil à faire. Puis aussi, parfois, c'est les études, c'est une chose. Il y a des adaptations au milieu scolaire, il y a des choses, ça a bien été. Quand on arrive pour le faire réellement sur le milieu du travail, parfois, c'est là aussi qu'il y a des deuils ou...
Hugues, t'avais une question?
Oh, je voulais pas, pas nécessairement t'interrompre, j'aurais pu juste intervenir après.
Ah, vas-y.
Ben, je me suis réorienté vers les mathématiques. Ben, je pouvais être considéré à temps plein à juste deux cours par session. Ouais. J'ai même essayé. J'ai essayé à trois cours, quatre cours, j'étais pas capable. Alors que, tu sais, il y a deux ans, quand je voyais bien, tu sais, je faisais 5-6 cours, puis ça allait bien. Sauf que j'ai fait mon bac à 2-3 cours par session. Tu sais, à peu près à 50%. Quand j'ai commencé à travailler, je faisais pas 17h30 par semaine. Mm-hmm. Je faisais 35 heures par semaine. Puis là-dessus, j'avoue que je me suis fait la réflexion, est-ce qu'on m'a vraiment rendu service en me permettant d'avoir accès full pin, prêts et bourses pour être considéré à temps plein quand j'étudiais à demi-temps, ce qui m'a permis de faire mon bac en maths. Si j'aurais pas réussi à faire mon bac en maths parce que j'étais obligé d'étudier à temps plein, ben j'aurais pas rencontré cet obstacle-là rendu dans un emploi où j'ai investi tout ce temps en éducation. Fait que j'ai eu un petit peu cette réflexion de dire ça a été une bonne chose, mais peut-être pas totalement parce que là, en emploi, on me donne pas de chance. Là. C'est comme performe parce que on travaille, puis il faut, tu sais, c'est ça.
Mais je sais pas si à ce moment-là, tu bénéficiais de subventions, parce qu'il existe des mesures pour les employeurs pour pouvoir être... Ce qui permet à l'employeur, en fait, d'être capable de mettre en place des mesures en lien avec les limitations, de pouvoir envisager de le faire en se disant, OK, je peux le faire parce que j'ai un soutien financier, autant les mesures d'adaptation technologique, là, mais aussi pour toutes sortes d'adaptations. Donc, par exemple, quelqu'un qui va avoir besoin... de plus de pauses, quelqu'un qui va, dans son travail, pour le même nombre d'heures, va peut-être être capable d'en faire moins. Parce que s'ils zooment très, très gros, ben peut-être que ça va prendre un peu plus de temps pour lire un document ou faire le travail. Donc, l'employeur est conscient de ça. Évidemment, il faut que la personne se déclare. Puis, c'est en passant par nous qu'ils peuvent obtenir. Nous, on peut déposer le dossier de subvention au gouvernement du Québec. On monte le dossier et ils reçoivent, si c'est une subvention salariale, une bonne partie du salaire. Là. Souvent, on est autour de 40... 50, ça peut aller plus que ça. Bien sûr, quelqu'un qui gagne 200 000, ils ne donnera pas. Ils auront, le gouvernement ne leur donnera pas 50 % de 200 000. Non.
Ce n'est pas mon salaire.
Non. mais ça vient... c'est comme un win-win. Ça permet à la personne d'avoir le soutien qu'elle a besoin, puis à l'employeur de aussi avoir un soutien pour contrebalancer l'impact que ça pourrait avoir. Mais pour nous, c'est important de dire... Il y a une grosse différence entre compétences et limitations. Il faut avoir les compétences du poste. L'employeur t'embauche pour tes compétences. Le milieu de travail ou l'environnement fait en sorte que tu as une limitation. Il faut l'adapter ou il faut que l'employeur mette en place des choses pour faciliter le travail. Donc, que ça soit équitable. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il peut avoir des subventions. Donc, tu disais, oui, je travaille 35 heures. C'est sûr que ça ne peut pas te permettre d'être payé 35, d'en travailler 20. C'est vraiment l'employeur qui reçoit. Mais ça peut permettre à l'employeur, justement, de pouvoir te donner plus de temps pour faire certaines choses, alléger la charge de travail, des choses comme ça, donc en fonction des besoins. Là. Donc, il existe des choses quand même pour faciliter peut-être ce gap-là entre les mesures qu'il y a à l'école et une fois sur le marché du travail, puis favoriser l'intégration et le maintien en emploi.
Puis est-ce que...
Tu vois, super intéressant.
Ouais, je ne savais pas.
Non.
Non.
Puis pourtant, c'est pas que j'étais. Tu sais, mon employeur le savait que je voyais pas bien, mais mon employeur le savait pas plus. Par exemple, mon premier emploi, j'étais au centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il savait que je voyais pas bien, mais. J'essayais de fonctionner comme je pouvais. Tu sais, fait que je savais pas que j'avais accès à ça. Fait que super intéressant.
Ouais. Ça s'appelle les contrats intégration de travail. Donc,
Les employeurs font affaire direct? Est-ce qu'ils peuvent travailler avec vous aussi en collaboration? Parce que vous travaillez avec les personnes qui ont une déficience visuelle, mais les employeurs aussi font appel à vos services?
Oui. Bien, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être une personne qui a un handicap visuel, qu'on accompagne dans sa recherche d'emploi ou qui nous contacte parce qu'elle a trouvé un emploi et qui peut avoir accès à une subvention. Puis nous, on va être là, si c'est une personne qu'on a accompagnée dès le début de sa recherche, évidemment, on peut être là pour l'intégration au niveau de l'emploi en collaboration avec l'INLB pour les premiers temps et tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de professionnels qui peuvent être là aussi. S'il y a une situation aussi un peu plus problématique ou des besoins qui évoluent, on est là en tout temps. Puis à l'inverse, on a aussi des employeurs qui nous contactent.
C'est ça. Hein?
Qui nous disent, mais là, j'ai essayé de mettre des choses en place. Je sens que je suis rendue peut-être au bout de ce que j'ai mis en place. J'ai besoin d'aide. Ou j'ai une personne dont la vue a baissé. Elle avait une problématique, puis là, ça l'a baissé beaucoup. Puis là, on aurait besoin de mettre en place des choses. Donc oui, ça peut aller dans les deux sens, là.
OK. Vous, Bianca, est-ce que vous aidez à l'Institut? Est-ce que vous aidez les gens?
Oui, mais d'une façon très différente de Horizon Travail. Nous, on va plutôt les aider à... Une fois qu'ils sont au travail, par exemple, ou en préparation d'un travail, de s'assurer qu'ils ont les outils, qu'ils sont en mesure de les utiliser, qu'ils ont les bonnes stratégies, tu sais, qu'ils sont en mesure de... J'ai un texte à lire. Comment je devrais le lire? De quelle façon? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je le lis à l'ordinateur? C'est quoi les raccourcis clavier que je dois connaître? On va leur donner le plus possible d'outils pour qu'ils puissent performer, comment je pourrais dire, aller au maximum de leur capacité, dans le fond. Fait qu'on va beaucoup les outiller, faire des entraînements. Puis on a un programme qui est dans la réadaptation au travail, où là, on peut aussi... moi, je travaille pas dans ce programme-là personnellement, là, mais le programme de réadaptation au travail, justement, va pouvoir, des fois, il va y avoir une conseillère en orientation, il va y avoir une équipe interdisciplinaire pour voir, est-ce que c'est possible pour la personne soit de se réorienter ou de continuer sur cette voie-là. Puis je pense que, justement, il y a beaucoup de collaboration entre Horizon Travail puis le PRT qu'on appelle.
C'est quoi le PRT?
Le programme de réadaptation au travail. Ce que je me demandais, moi, ce que je me fais beaucoup dire et parmi mes usagers, puis que moi aussi, quand j'étais plus jeune, je me disais, c'est comment on aborde ça en entrevue. Ça, j'imagine que vous faites poser souvent.
Ouais.
Hein, quand on a quelque chose à dévoiler, comment on dit, est-ce que vous les assistez un peu, les clients?
Oui, ça fait partie de notre rôle aussi de, déjà, si... Il y en a qui ne veulent pas le déclarer. Donc, les amener à prendre conscience que, pour que l'employeur puisse donner les adaptations nécessaires, puis au-delà de la subvention, oui, mais même s'il n'y a pas de subvention, Il faut que l'employeur comprenne c'est quoi les besoins. Mm-hmm. Il faut le dire. Puis nous, on les amène à savoir comment parler, comment le présenter. Ça fait partie du rôle de la conseillère en emploi là, dans un organisme avec des personnes en situation de, oui, de handicap, mm-hmm, de devoir expliquer que c'est important de divulguer, puis comment on le fait. Ouais.
Mais
ouais.
Ariane Gingras, merci beaucoup. Ouais. Ariane Gingras, directrice générale d'Horizon Travail. Donc, les gens peuvent vous contacter, peu importe l'âge. Tantôt, on a parlé de 16 ans, mais les gens vous contactent à tout âge. En fait, quand ils ont besoin d'aide pour l'emploi. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à notre toute première émission. Merci beaucoup,
Ariane. Avec grand
Ariane.
Plaisir. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Alors, on est toujours avec Hugues. Ariane, tu restes avec nous. On s'est dit tantôt, parce qu'on parle de travail, je veux comprendre davantage qu'est-ce que tu fais précisément, Bianca, mm-hmm, en tant que spécialiste en réadaptation en déficience visuelle.
Bien déjà, je nomme mon titre souvent. Hein? Oui,
bien, les gens vont savoir que tu connais ça.
C'est très drôle.
SRDV, étant donné qu'on aime beaucoup les acronymes avec INLB.
Oui, c'est ça. Vous en nommez pas mal.
Ah oui, hein, si je dis je suis SRDV, LINLB, les fois, les gens n'ont aucune idée de quoi je parle. Donc, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, en fait, ce qu'on fait, ça peut être varié. En gros, je dirais, c'est d'assister les personnes qui ont une déficience visuelle pour trouver des stratégies pour qu'ils continuent à faire ce qui est important pour eux. Maintenant, ça, on peut le pratiquer dans différents cadres. On pourrait, par exemple, travailler auprès des enfants. Mm-hmm. Fait que là, ça peut être, bon, mais les enfants, ils doivent aller à l'école, ils vont avoir des loisirs. Fait quel outil, quelle stratégie, quel truc, quelle adaptation on peut voir avec eux pour que la personne puisse faire les activités, tu sais, que la vie l'amène à faire. Fait que, par exemple, ça pourrait, une personne âgée, ça pourrait être, je ne sais pas moi, que la personne arrive à prendre ses courriels, que la personne soit capable de communiquer avec ses enfants, ses petits-enfants, qu'elle soit capable de faire sa liste d'épicerie. Fait que c'est très, très varié quand même, mm-hmm, les activités. Puis moi, je travaille auprès de la clientèle adulte. Donc chez nous, les adultes, c'est à partir de 25 ans, mm-hmm, et jusqu'à 64 ans. Après 64 ans, on est encore adulte, mais on est aîné, okay, dans notre système à nous. Oui. Donc, c'est une autre équipe. Fait que moi, je vais travailler vraiment avec les personnes, souvent quand ils sont dans la tranche active, si on veut, de leur vie. Justement, beaucoup de personnes à l'emploi, aux études, ou dans toutes sortes de rôles qu'ils vont avoir dans la vie. Puis moi, mon travail est beaucoup au niveau de la communication informatique. Donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un vient de perdre la vision, comment il va faire pour utiliser son téléphone. Puis là, ben, son ordinateur, toutes sortes de tâches comme ça. Puis je vais essayer de trouver les moyens ou les choisir, dans le fond, ce que je vais leur enseigner en fonction de qui ils sont.
OK.
Ouais.
C'est le fun parce que les deux, Hugues et en fait, et toi aussi, Bianca, oui, vous travaillez avec le monde, vous travaillez, oui, avec le public, vous êtes chanceux.
Ben oui.
C'est vrai.
C'est un plaisir.
Ouais, hein? Alors, toi, la différence, là, pour l'instant, que je vois une grande différence, c'est que toi, tu travailles dans un domaine où tu es probablement le seul, ou en tout cas, tu es le seul, ouais, qui a une déficience visuelle, alors que Bianca, toi, tu es entourée de, ouais, gens. Est-ce qu'il y a une différence?
Bien, peut-être ce qui me vient un peu, on en avait déjà parlé d'ailleurs, Hugues, moi, c'est que ce que j'aime de travailler, ce qui est facilitant, je dirais, de travailler avec les personnes qui ont une déficience visuelle, c'est que quand je vis un obstacle ou un, mm-hmm, défi dans ma vie, par exemple, je ne sais pas, je dois utiliser un site web qui n'est pas accessible, mm-hmm, bien, quand j'ai cette difficulté-là, comment je pourrais dire? C'est que je travaille tout le temps. Ça dépend comment on voit les choses, mais c'est que quand j'ai un obstacle et je trouve une solution, je la partage. Fait que des fois, je travaille puis je me dis... je suis sur mon temps personnel, j'essaie de faire quelque chose, j'ai une difficulté, puis là, je trouve une solution. Mm-hmm. Je me dis, ah, je vais la repasser à telle personne. Tu sais, fait que ça m'aide beaucoup dans mon travail parce que chaque bug, chaque défi que je rencontre, je peux le partager. Fait que pour moi, ça me donne le goût de régler les problèmes. Tu sais, mm-hmm, c'est très... puis ça fait que dans mon travail, bien, il y a beaucoup de connaissances que j'acquiers parce que je suis confrontée à ça. Puis aussi, ce que je dirais, le fait d'être entourée de personnes qui ont une déficience visuelle, ça m'a fait prendre conscience d'à quel point c'est un monde qui est vaste. Comme le dit Ariane, tu sais, chaque personne, c'est différent. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je connaissais ma déficience visuelle, puis je savais pas qu'il y avait un programme à l'université là-dedans, puis que c'était une science, c'était les sciences de la vision. Fait que quand j'ai commencé à étudier puis à travailler, j'ai découvert comme un monde qui a pas juste ma déficience visuelle, mais qui a des tonnes de différences dans les déficiences visuelles. Fait que c'est ça, tu sais.
Alors que toi, t'es pas dans le partage d'idées. Quand, exemple, comme elle dit Bianca, quand elle trouve une solution à quelque chose, elle le partage. Toi, t'es un peu, je veux pas dire t'es seule dans ce que tu vis, mais tu partages pas, tu parles pas de ta déficience visuelle avec les autres, tu peux pas... Tu comprends?
Ben non, l'exemple que j'avais donné tantôt...
Pas comme le fait Bianca.
Non, c'est ça, l'exemple que j'avais donné tantôt. Une fois, j'ai discuté avec un chargé de cours qui vivait en situation de handicap visuel, là, mais c'est à peu près tout. Mais juste le commentaire de Bianca me fait penser que Bianca est la spécialiste en réadaptation visuelle la plus passionnée que je connais, puis j'en connais quand même quelques-uns et quelques-unes. Fait que elle a une très grande passion pour son travail.
Ouais. Ouais, je suis bien contente de l'avoir rencontrée.
C'est mutuel. mais tu sais, Hugues, moi, des fois, ce que je me dis, c'est non, tu peux pas partager tes bugs informatiques et leurs solutions, mais tu fais connaître la déficience visuelle, puis tu fais voir à des gens qui voient bien c'est quoi la réalité de quelqu'un qui a une déficience visuelle, puis que c'est possible de travailler. Puis tu sais, t'es comme entre guillemets un ambassadeur, tandis que moi, je parle à des gens convertis déjà, tu sais.
Ah, c'est beau ça, Hugues.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
Ah bon? Allez, on va faire un petit jeu, Hugues, en finissant.
Let's go.
Alors, A ou B, OK? Je te donne deux mots, tu choisis lequel des deux tu préfères. Donc,
est-ce que je donne une explication ou c'est juste A ou B?
Tu peux donner une petite explication. OK? Je t'ai dit tantôt, ville ou campagne?
Campagne quand je voyais bien, ville maintenant que je vois pas bien.
Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent en campagne? Ben oui, il y en a des gens qui vivent en campagne, mais c'est plus difficile.
Mm-hmm. Ben, le transport adapté. C'est ça.
Ouais, OK. Hugues, été ou hiver?
Été.
OK. Parce que Bianca me disait aussi que les rayons du soleil, parce que quand on va travailler ensemble, on est dans un resto, il y a beaucoup de fenêtres, il y a beaucoup de lumière. T'aimes mieux quand c'est plus sombre et tout ça. Fait que je me disais, mais en même temps, quand le soleil réfléchit sur la neige, pour toi, c'est plus difficile, hein?
Ah, mais ça, c'est l'éclairage, là, on pourrait faire une émission que sur l'éclairage. C'est archi complexe, l'éclairage.
Bon. On invitera ta collègue, la fille que tu connais, qui travaille en...
Excellente idée, je vais y en parler.
Hey, là, j'ai une colle pour toi. Fondu ou poisson avec des arêtes?
Tellement fondu,
hein?
Trop travaillé pour manger. C'est...
Hey, mais une fondue, c'est quand même tough, là. Tu sais, le petit plat, là.
Oui, mais j'avoue que c'est difficile d'avoir les couleurs, par exemple. Tu sais, les petits bâtons,
couleurs,
quand tu vois pas bien, des fois, tu peux te ramasser avec la bouffe des autres.
Ah, ouais. C'est ça. Mais mon fils, tu vois, il a pas de déficience visuelle, puis il se ramasse avec la bouffe des autres quand même. Il prend les petits bâtons hypocritement.
Ce qui flotte, là. Il flotte.
Ah non, il prend les bâtons des autres. Donc, je l'ai dit, mais toi, Hugues, éblouissement ou obscurité? Qu'est-ce que, tu sais, mieux. La luminosité ou l'obscurité? Y a-t-il quelque chose qui t'achale particulièrement, tu sais? Comme je disais tantôt, Bianca, le soleil, c'est fatigant pour toi, Bianca.
Ben, comment t'avais appelé ça, l'inverse de obscurité, là, éblouissement. En tout cas, ce que je préfère moins, c'est l'obscurité.
Ouais.
Sauf que je trouve que dans l'obscurité, tout le monde est égal. À la limite, t'as pas d'handicap visuel quand il fait noir. Personne voit rien. T'sais.
Effectivement.
Mais quand même, je préfère quand il fait clair. Je suis pas trop ébloui par la lumière. De toute façon, j'ai des bonnes lunettes de soleil. Fait que ça fait un job.
OK, c'est bon. Techno ou vieille méthode? Parce que, à ta minute, moi, j'ai su quelque chose. Là. Fait que t'es mieux de répondre comme il faut. Parce que, techno ou vieille méthode?
Vieille méthode.
OK, dis-moi en plus. Qu'est-ce que tu utilises comme... C'est quoi ta vieille méthode? Tu utilises...
Je sais pas, quand je reçois un texto, c'est un sifflet de locomotive à vapeur. Tu sais, j'ai déjà travaillé dans un musée de train. Tu sais, j'aime bien les vinyles, genre les vieux disques. Mais sauf que, veux pas, la techno, étant donné que je vois pas bien, je reconnais à quel point elle m'aide. J'aurais jamais fait les études que je fais, le travail que je fais. Il y a 10 ans, j'aurais pas pu faire le travail que je fais maintenant, mais la nouvelle version des logiciels d'adaptation me permet l'affichage grossi d'un bord, pas grossi de l'autre. Fait que j'aime quand même la techno, mais j'aime bien...
Bianca me disait que des fois, tu y allais avec la loupe, hein?
Ah!
Ah! C'est pour ça
oui,
que
ben elle utilise la loupe de son téléphone. Mm-hmm. Je suis comme, non, là, j'ai quasiment l'air d'avoir mon monocle. Là, puis je... Oui, c'est vrai que j'utilise beaucoup la loupe. Mais j'ai quand même une nouvelle loupe qui fait de la lumière aussi. C'est quand même une coche de plus.
Wow! On est loin de l'intelligence artificielle.
Mais quand même, on se rend compte de plus en plus que la technologie aide beaucoup les personnes, peu importe l'handicap, situation, peu importe, handicap physique, handicap... Alors, Ariane, merci beaucoup. Merci encore d'avoir été là. C'est vraiment
merci
gentil.
Merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Hugues Leduc, t'es super sympathique. Je te remercie. Et puis, on va te réinviter parce que t'es un grand sportif.
Puis, ben, d'ailleurs, je suis grand, puis je suis sportif.
Ouais, c'est ça. Mais je vais aller jouer au tennis bientôt avec toi. Un tennis sonore. On joue à ça bientôt. Bianca, comment a été ta première?
Ben, ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé.
Ben,
hein?
Oui,
bon, ben écoute,
oui.
Super chouette. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Puis on se retrouve, Bianca, et on se retrouve bientôt pour une prochaine thématique.
À bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup.